et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va!
Lorsqu'on s'expatrie, on pense souvent que le défi pour les enfants sera d'apprendre la nouvelle langue, la langue du pays où on s'en va. Finalement, notre expérience, comme plusieurs expatriés l'ont aussi mentionné dans mon réseau, a vraiment été complètement différente. Ce n'est pas d'apprendre l'anglais qui a été notre plus grand défi, mais bien de ne pas perdre le français au fil du temps qui a passé. En faisant mes petites recherches pour trouver des outils et des ressources qui pourraient m'aider et aider d'autres mamans expats du Québec comme moi, je suis tombée sur le site devenirbilingue.com. Je suis alors entrée en contact avec notre invitée du jour, Lorraine Ourcade, qui a accepté avec générosité de traiter la question avec nous. Bonne écoute! Bonjour Lorraine, comment vas-tu?
Bonjour Dominique, très bien, merci.
Donc, je suis super contente que tu sois là aujourd'hui avec nous pour traiter de ce sujet-là auquel on tient tant, qui est de conserver le français à la maison lorsqu'on est expatrié pour nos enfants. J'ai été découverte en me promenant en ligne, j'ai découvert devenirbilingue.com et à ce moment-là, j'ai découvert ton profil. Donc, c'est comme ça qu'on est entré en contact. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on aborde ce sujet-là de conserver le français. Mais avant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton expérience à toi. Donc, d'où tu viens, ce que tu fais, où es-tu en tant qu'expatrié parce que tu l'es. Alors, je t'écoute.
Très bien. Donc, moi, je suis française. Je viens du sud de la France. Et après avoir travaillé 10 ans à Paris, mon mari a eu l'immense opportunité de travailler à New York pour sa société. Donc en 2013, nous sommes partis à New York avec un petit garçon de 4 ans et demi et un deuxième petit garçon de 2 ans et demi. Pour moi, vivre à New York et vivre aux États-Unis, c'était la chance de pouvoir faire que mes enfants deviennent bilingues en anglais. Et donc, on les a tout de suite inscrits en preschool, donc en maternelle américaine. On est resté 3 ans à New York. Mes enfants ont appris l'anglais. Et à l'issue de ces 3 ans, mon mari a à nouveau eu une opportunité professionnelle et nous sommes venus nous installer à Mexico City. À Mexico City, mes enfants ont dû apprendre l'espagnol, bien sûr, avec une phrase de transition un petit peu difficile où ils ne voulaient plus parler anglais parce qu'il fallait apprendre une nouvelle langue. Et en même temps, nous, on était très désireux de maintenir leur anglais et le faire progresser. Donc, nous avons une famille trilingue et donc nous travaillons dans les 3 langues. Quand je suis arrivée à New York et vraiment avec l'observation de l'apprentissage de l'anglais de mes enfants, on a côtoyé une population internationale avec vraiment qui venait du monde entier. Et ça a été vraiment un enrichissement formidable pour moi et ma famille. Et voir tous ces gens, tous ces enfants qui allaient à l'école américaine ou l'école française et qui étaient déjà bilingues dans leur foyer, ça m'a vraiment donné envie de... Enfin, je me suis vraiment beaucoup intéressée au sujet et comment tous ces enfants faisaient pour acquérir 2 ou 3 langues. Et donc après un premier projet professionnel sur la mise en place de cours de français online à New York, je suis allée avec Emmanuel rejoindre l'équipe de son site qui s'appelle devenirbilingue.com, qui est un site d'information gratuit qui traite de l'apprentissage des langues étrangères pour les enfants et du maintien du français. Donc, nous nous adressons à une population francophone, qu'elle soit québécoise, suisse, belge et francophone du monde entier. Voilà, pour toutes ces problématiques. Moi, je m'intéresse et je travaille particulièrement sur le maintien du français. Donc, pour des francophones qui ont notamment fait le choix de pas scolariser leurs enfants dans un système francophone et donc ils sont vraiment avec une ou deux autres langues dominantes tous les jours à l'école, à la maison pour leurs enfants et qui souhaitent transmettre le français à leurs enfants, car c'est pas facile et c'est vraiment un travail de tous les jours.
Donc, tout à l'heure, on a parlé justement de maintenir le français, mais de votre côté, si je comprends bien, c'est que vous essayez aussi de maintenir l'anglais dans un environnement espagnol.
Absolument. Moi, ma petite dernière, qui a aujourd'hui 5 ans, est née à New York. Elle a appris à parler en anglais. Elle a eu une nounou américaine. Et aujourd'hui, elle n'est plus du tout dans un contexte anglophone, mais on souhaite qu'elle développe réellement son anglais.
Wow! Donc là, vous travaillez sur le français, l'anglais et l'espagnol en même temps à la maison.
Absolument.
Est-ce que vous devez réellement travailler sur l'espagnol? Parce que si je comprends bien, tous les trois vont à l'école en espagnol.
Alors, ils vont en école bilingue. Donc, ils vont en école en français et en espagnol. Donc, le cursus est celui de l'éducation nationale française. Et il y a 3h30 d'espagnol par semaine à l'école. Après, comme beaucoup d'écoles françaises, la langue de communication entre les enfants, donc de la récréation et en dehors, c'est l'espagnol.
Donc, wow. En fait, le défi est grand, mais c'est merveilleux en même temps. Justement, j'aimerais ça qu'on découvre ensemble là, les outils ou les ressources que vous proposez pour réussir ce défi-là avec vos trois enfants.
Alors, si on parle donc d'apprentissage de plusieurs langues et donc notamment du français, tout d'abord, ça commence à la naissance ou un petit peu avant la naissance de l'enfant sur la réflexion de couple par rapport à la stratégie de langage que le couple, la famille, veut adopter. Donc, il faut vraiment en parler ouvertement avec son conjoint, sa conjointe. Prenons l'exemple où je suis moi donc une maman francophone, mais mon conjoint n'est pas francophone. Alors après, est-ce qu'il parle un petit peu français ou pas du tout? Quelle est la langue de notre couple? Et quelle est la langue du pays dans lequel nous vivons? Parce qu'il peut y avoir donc deux langues. Donc la langue du couple, la langue du pays et donc la langue que chacun souhaite transmettre aux enfants, donc, dont le français, donc trois langues. Donc là, il y a plusieurs stratégies, en fait. On dit souvent qu'il vaut mieux que chaque parent puisse parler sa langue à son enfant, même s'il y a une troisième langue entre le couple. C'est-à-dire que les enfants vont apprendre que maman parle français, que papa parle espagnol et qu'à l'école, on parle en anglais. Donc ça, c'est une gymnastique de l'esprit que les enfants vont apprendre assez vite. Et il est important de se tenir à sa stratégie au sens de ne pas en changer toutes les semaines. Et ce n'est pas forcément facile de parler à son enfant dans une langue qui est étrangère pour le pays, pour les amis, pour les proches en public. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça et qui, pour être compris de tout le monde, pour s'intégrer, puisque nous-mêmes, on vit dans des pays étrangers qui nous accueillent, pour s'intégrer et se mettre au diapason, on est souvent gêné de dire « Ah ben, je parle en français devant des mamans américaines à mes enfants, elles ne comprennent pas ce que je leur dis, peut-être que ça les met mal à l'aise. » Mais en même temps, il faut aussi être forte dans ses convictions, car si on commence à lâcher, en fait, la problématique qui va apparaître assez rapidement, c'est que l'enfant a bien compris que vous-même, vous maîtrisiez plusieurs langues, et donc, pourquoi il s'embêterait à apprendre le français alors que maman parle très bien anglais comme le reste du monde qui l'entoure, comme papa. Pourquoi moi, je devrais faire cet effort? Et c'est très rationnel puisque les enfants étant plus quelque part en mode survie, ils vont laisser tomber tout ce qui ne les sert pas de manière vitale. Donc, cette langue qui n'est pas utile, puisque j'ai un palliatif, j'ai une autre possibilité, je peux parler anglais avec maman, pourquoi je me creuserais la tête à parler cette langue? Alors après, les stratégies de langage, elles peuvent évoluer quand même au cours du temps, notamment si on est amené à déménager. Pour vous donner un exemple très proche, mon frère est français, ma belle-sœur est portugaise, il vivait au Portugal. Donc, mon frère parlait français à son premier fils, dans l'optique de lui donner suffisamment de français pour qu'il puisse l'apprendre très jeune. Après ces 3 ans, ils ont déménagé en France. Et là, la maman qui a toujours parlé portugais continue à parler portugais. Mais là, mon frère a senti qu'en plus, comme leur enfant allait à l'école française, le portugais n'était pas vraiment assez fort, assez présent. Et donc, il a basculé et il parle maintenant portugais à son fils. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément de choses qui soient immuables.
Ouais.
Tant que, évidemment, l'enfant l'accepte. Moi, par exemple, mes enfants acceptent que je parle anglais dans un contexte où on parle avec d'autres anglophones, mais quand je leur parle anglais, moi, en direct, ils ne veulent pas. Donc après, chaque enfant va aussi réagir avec son parent et l'acceptation du parent de parler une langue, deux langues, trois langues, et dans un certain contexte. Voilà. Donc ça, c'est pour les stratégies de langue, voilà, où on doit décider quelle langue on va se parler et s'y tenir tant que ça a du sens, tant que c'est intelligent par rapport à l'environnement dans lequel on se trouve, l'environnement du pays, l'environnement scolaire. Et ensuite, il y a, très bien, donc j'ai décidé de parler français à mon enfant, rien que français, mais comment je vais faire pour bien lui transmettre mon langage? Alors, dans la phase où les enfants sont en train d'acquérir le langage, donc entre 0 et 3 ans, donc c'est beaucoup leur parler. On dit que... alors, on a l'impression de parler dans le vide, hein, surtout à des petits bébés qui font que gazou gazou. Mais il faut parler, parler à son enfant comme à toute autre personne. Et pour se donner des idées, c'est commenter tout ce qu'on fait. Je suis en train de faire couler l'eau pour ton bain. Ah tiens, l'eau est tiède. Nous allons y mettre des jouets. De quelle couleur sont les jouets? Et donc, comme ça, ça va, il y a un flow musical qui va s'instaurer, où l'enfant va donc apprendre la musicalité de la langue et petit à petit, il va apprendre du vocabulaire. Et donc, pour la transmission du vocabulaire, ce qui est important, donc, c'est de parler de façon soi-même riche et variée. C'est pas de poser des questions où les réponses sont monosyllabiques ou soi-même de rester dans des choses archi-simples. C'est de se forcer un petit peu à dire des choses un petit peu plus évoluées pour enrichir en fait son vocabulaire. Ou quand l'enfant vous dit « moi manger »,« ah, j'entends que tu as faim, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Un biscuit, un fruit, voilà. Qu'est-ce que... » Et donc d'enrichir comme ça en ayant un langage assez, assez développé et pas bébé finalement.
Ah ouais, c'est ça. Hein? Puis c'est pas évident quand on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Puis en même temps, il faut pousser ça à un autre niveau là.
Voilà. Mais c'est vrai que si on, alors on peut toujours avoir cette phase. Bien sûr, c'est pas, il y a rien de grave. Hein, mais bébé veut miam miam, bébé veut son lait.
Ouais.
Enfin, c'est un petit peu réduit. Enfin, il y a, c'est pas mal. Mais disons que voilà, si on fait des phrases plus élaborées, les enfants comprendront de toute façon très bien et ça leur permettra d'enrichir leur vocabulaire et eux-mêmes en entendant que des phrases qui sont d'un point de vue syntaxique correctement construites, bah, d'assimiler en fait la syntaxe de la langue. Alors, quand l'enfant commence bien à parler, il y a la fameuse question, dois-je le reprendre quand il a dit soit du vocabulaire trop bébé ou qu'il a utilisé un mot en anglais, un mot en espagnol, enfin un mot qui n'est pas de français. Est-ce que je dois le gronder? Est-ce que je dois lui faire répéter tous les bons mots? Moi, là-dessus, je crois beaucoup à ne pas forcer les enfants pour jamais les braquer. Et ne pas forcément forcer à répéter. En plus, si on sent que l'enfant n'est pas forcément... il est fatigué, il réclame quelque chose à manger. Bon, il n'est pas dans un... Il n'est pas de bonne humeur pour répéter ce que vous dites. Il veut surtout manger. Donc, simplement reformuler de manière correcte, mais ne pas exiger nécessairement de l'enfant qu'il répète toute la structure de la phrase de façon correcte. Mais en tout cas, à chaque fois, lui avoir donné à écouter une structure de phrase correcte. Et ça va venir comme ça.
Donc, ce serait de répéter...
reformuler, exactement.
Reformuler de la bonne façon, mais sans le forcer à répéter ce qu'on dit.
Exactement. Il y a des moments où vous aurez quand même envie qu'il répète, où tout se passe bien, tout le monde est de bonne humeur, on n'est pas pressé. Et puis, les enfants vont spontanément aussi répéter, de toute manière.
Ouais, c'est ça.
Mais s'ils le font pas spontanément, il n'y a pas forcément, il n'y a pas besoin de les forcer. Car avec cette transmission de la langue, je l'ai dit, les enfants sont dans ce réflexe de survie et de ne pas dépenser une énergie inutile dans quelque chose qu'ils considèrent inutile. Il ne faut pas que la langue devienne un sujet de friction. Donc, un parent qui forcerait son enfant à répéter avec un peu de colère, c'est pas bon pour la relation et pour le plaisir que doit prendre l'enfant avec la langue. Ouais, il y aura des moments de friction, il y en aura forcément au quotidien. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter la langue comme sujet de friction.
Et là, si on parlait des ressources autour de tout ça, parce que si le parent prend la décision de la langue qui sera parlée à la maison, utilise ces trucs-là pour aider l'enfant à progresser ou à maintenir sa langue, le français dans le cas qui nous occupe, si on parle des ressources, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qui est à notre portée pour aider nos enfants à travers ça?
Alors, c'est beaucoup d'écoute au début. Donc, tout ce qui va être les comptines, les chansons en français ou les histoires lues, enregistrées en français. Et les histoires, bien sûr, rien de mieux, lues par les parents. Et même le parent qui n'est pas francophone ou qui ne parle pas très bien français peut lire une histoire à son enfant. Et puis, l'enfant, quand le français sera mieux installé, il va reprendre son parent. Et c'est important de montrer aux parents, aux enfants, regarde, tu vois, maman ou papa t'a transmis cette langue et t'es meilleur que moi aujourd'hui et c'est génial. Oui. Les enfants, on les éduque pour qu'ils nous dépassent quelque part. Donc, quand ça arrive tôt, c'est génial sur une langue. Donc, et on peut s'appuyer beaucoup sur les livres bilingues pour que la même histoire soit lue en anglais, soit lue en français. En plus, plus les enfants sont petits, plus ils aiment la répétition. La répétition est excellente parce qu'il faut répéter pour que la structure de phrase s'apprenne, pour que le vocabulaire s'apprenne. Donc, tous les livres bilingues, alors, ils ne sont pas forcément complètement bilingues, mais si on prend toutes les histoires classiques ou par exemple les histoires de Disney, ce n'est pas grave si ce n'est pas à la même page, etc. Mais l'histoire des Aristochats, on la lise en anglais ou en français, même si le livre n'est pas identique, ça reste la même histoire.
Oui.
Et donc, l'enfant renforce sa compréhension. Et quand on lit des histoires comme ça en bilingue, très tôt s'installe dans le cerveau le fait que, ça renforce le fait que pour un même sens, il y a deux mots dans deux champs lexicaux différents, en anglais et en français.
Et le fond est le même. Donc, ça ramène à la même histoire.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un sens. Ouais. Et il y a deux mots pour exprimer ce sens qui appartiennent donc à deux langues. Parce qu'en fait, ce que les neurologues expliquent, c'est que dans le cerveau, la zone du langage, il n'y a pas une petite boîte par langue. Il n'y a qu'une zone.
Ah oui, OK.
Il n'y a qu'une zone et c'est à l'intérieur que se mélangent les différents champs lexicaux. Et c'est pour ça que... autre chose, quand un enfant va parler, il y a des mots qui vont sortir dans une langue ou dans une autre. Spontanément. Mais nous aussi, quand on vit dans un environnement qui n'est pas celui de notre langue maternelle, parce qu'on est habitué, parce qu'il y a des mots qu'on trouve plus précis, plus justes, plus pertinents dans une autre langue, ils vont sortir dans une autre langue. Alors, évidemment, ça s'appelle du franglais, du spanglish, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas forcément grave. Une fois de plus, on peut... Sans reprendre en disant « Ah non, il ne faut surtout pas utiliser ce mot », mais le donner en français, son équivalent en français. Et puis, on n'est pas obligé de reprendre 100% des choses non plus. Est-ce que le mot n'est pas venu parce qu'il était juste un petit peu plus loin en français ou finalement le sens n'est pas tout à fait le même et j'accepte le sens en anglais parce qu'il est plus précis dans ce contexte-là.
Mais justement, il me semble que c'est une difficulté pour conserver le français quand on est dans un pays anglophone, comme aux États-Unis. C'est qu'il me semble, et je n'aurais pas dit ça avant de vivre ici pendant quelques années, que l'anglais est souvent plus précis ou plus facile à employer pour être précis dans une idée. Donc, à ce moment-là, même si moi, je ne suis pas complètement immergée puis je passe pas mon temps, je travaille en français, etc., il vient quand même le moment où il semble que c'est vraiment plus clair de dire quelque chose en anglais qu'en français. J'imagine que pour les enfants, ça existe aussi, plus la difficulté qu'eux passent leur journée dans l'école, à l'école en anglais.
Ah. Le français peut être aussi précis. Par contre, il va souvent être plus long dans une phrase, en fait. Oui. Et puis après, finalement, le langage n'est qu'un code pour exprimer des idées. Donc, une expression consacrée, tout le monde sait qu'elle veut dire ça exactement. Et comme on est dans un environnement anglophone, ben voilà, on utilise ces expressions consacrées pour ce sens-là. Et comme on n'est pas forcément dans un environnement francophone ou beaucoup plus réduit, on a moins le sens de ces conventions. Mais il existe la même chose. Et après, la longueur de la phrase, quand on est dans un environnement francophone, on n'en fait pas cas du tout, que ce soit un petit peu plus long à dire.
Oui, c'est ça, parce qu'on est habitué de le faire comme ça, puis il n'y a pas d'autre chemin. Il y a une question qu'on a abordée avant l'enregistrement, puis j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce que je pense que ça doit être une situation qui se répète quand même relativement souvent. Je ne connaissais pas ça, mais comme je te le racontais, moi j'ai deux enfants qui parlaient déjà français quand on est arrivé aux États-Unis, et donc l'apprentissage d'anglais s'est fait quand même assez rapidement, mais le français, au niveau où il était du moins, là, s'est conservé. Tandis que ma troisième, quand on est arrivée ici, elle ne parlait ni anglais, ni français, ou très peu de français, et on a fait face à un genre de mutisme, si je peux l'appeler comme ça, pendant un bon 2-3 ans. À un certain point, bien, comme elle vieillissait, comme elle grandissait, je suis allée cogner à des portes en pensant que mon enfant avait un problème au niveau de l'apprentissage de la langue, etc., un trouble de développement. Donc, est-ce que ce sont ses oreilles? Est-ce que c'est son langage? Est-ce qu'il y a une certaine thérapie à suivre finalement pour l'aider? Là, on a discuté de ça avant, mais j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus parce que je trouve que c'est super important. Si tu peux nous expliquer ce que tu me racontais par rapport à cette situation-là.
Bien sûr. Quand un enfant grandit dans un environnement bilingue, à l'inverse de tes grands qui ont grandi dans un environnement monolingue puis qui ont acquis une seconde langue, beaucoup d'enfants, enfin en tout cas beaucoup de parents arrivent avec des enfants de 3 ans et ils sont inquiets pour le développement de leur langage et ils se disent est-ce que mon enfant qui parle vraiment pas bien, alors ni dans une langue ni dans l'autre, ou plus dans l'une que dans l'autre, est-ce qu'il aurait pas un retard de langage? Est-ce qu'il n'aurait pas un trouble du langage? Parce que, alors, il parle un petit peu français, mais avec un horrible accent, alors que normalement, les enfants qui naissent d'un parent francophone devraient avoir un bon accent. C'est terrible. Est-ce qu'effectivement, il n'entend pas bien? Est-ce qu'il a un problème donc fonctionnel avec le langage? Et donc, beaucoup, beaucoup de parents s'inquiètent aussi par rapport à cette phase de mutisme et vont consulter donc des orthophonistes ou des speech languages aux États-Unis avec leur inquiétude. Et en fait, dans l'écrasante majorité des cas, les enfants n'ont pas de problème fonctionnel ni de retard. Les orthophonistes disent on ne constate pas plus de pathologies en termes de retard ou de troubles du langage chez les enfants bilingues que chez les enfants monolingues. Par contre, effectivement, on constate souvent des phases de silence où l'enfant engrange, mais il n'exprime pas. Voilà. Et donc, ça crée une grosse inquiétude pour les parents. Mais voilà, dans cette phase de tout jeune âge, d'acquisition du langage, ça va dépendre, est-ce qu'ils sont un petit peu plus beaucoup plus exposés en anglais, un petit peu en français, ou inversement, est-ce qu'ils vont à la crèche, est-ce qu'ils ont une nounou francophone ou anglophone, est-ce qu'ils sont avec maman qui parle français, ou est-ce que c'est papa qui parle français et qui travaille, et peut-être un petit peu moins présent à la maison que maman qui a pris un congé. Donc tout ça, évidemment, ça va créer un environnement spécial à l'enfant et chaque enfant va réagir de façon différente. Mais effectivement, c'est une inquiétude qu'on retrouve beaucoup et beaucoup de parents d'enfants bilingues disent « moi, mon enfant a mis du temps à parler ». C'est un constat un petit peu empirique qu'on fait.
Oui, parce que tu vois, en fait, quand j'ai parlé de tout ça avec le pédiatre, après que tout le monde ait conclu que c'était lié justement au fait qu'elle avait choisi l'anglais, volontairement ou involontairement, là, reste que la pédiatre me disait, mais alors, toi, force-toi à lui parler en anglais, comme ça, elle va te parler plus. Puis là, je me disais, mais je veux pas, je veux quand même encourager le français. Je veux dire, ça ne presse pas tant que ça pour moi qu'elle parle à la maison, dans le sens où, sachant qu'elle communique à l'école, qu'elle apprend à l'école, moi, je peux continuer à lui parler en français, puis qu'elle finit par arrêter ce blocage-là, puis au moins me répondre en anglais, mais comprendre le français. Je voulais continuer à l'aider de ce côté-là. Puis là, je savais plus trop avec ce que disait le pédiatre. Qu'est-ce que tu recommanderais par rapport à ça, toi?
En fait, effectivement, il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas l'habitude d'avoir des enfants bilingues dans leur classe, mm-hmm. et qui ne sont pas formés. Et leur premier réflexe, c'est de dire, finalement, cette deuxième langue est un perturbateur pour le développement de l'enfant. Donc, il vaudrait mieux arrêter ce perturbateur et qu'on arrête la deuxième langue à la maison et qu'on n'en parle qu'une, et peut-être de la réintroduire une fois que la première sera bien installée. Mmh. Et là, vraiment, tous les professionnels qui savent, qui connaissent et qui traitent les enfants bilingues disent « ça n'a pas d'importance ». Et les enfants bilingues qui ont de vrais troubles du langage ou retard sont traités et sans aucun problème. Après, il faut faire le choix de la langue dans laquelle ils seront traités, mais en fait, ça influe sur les deux. Quand on a des problèmes un petit peu bénins, comme bien positionner finalement la langue dans sa bouche pour bien faire le son, il y a des enfants qui n'arrivent pas à faire certains sons, voilà. Mais tout ça, ça se corrige assez vite, et c'est tellement dommage d'abandonner justement cette deuxième langue. Et les parents qui, par mauvais conseil, moi je pense, hein, vraiment, ont arrêté leur deuxième langue, quand ils veulent la réintroduire, eh ben, y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé.
Ouais.
Donc, qui s'est fragilisé, l'enfant, une fois de plus, on a dit, oh, ben, c'est bon, donc on n'a pas besoin de cette langue, on s'en est débarrassé. Donc, il n'y a pas besoin d'y revenir. Et là, on se coupe un peu l'herbe sous le pied. Et vraiment, ce n'est pas facile d'élever son enfant bilingue, de transmettre sa langue maternelle quand elle est minoritaire. C'est-à-dire que quand il n'y a que soi qui parlons la langue de notre enfant, mais c'est vraiment une bataille, c'est un peu dur, mais c'est un travail vraiment de tous les jours et sur le long terme. Et ce qu'on se disait également, c'est que... quand on a du recul, c'est-à-dire que quand on a des enfants qui sont jeunes adultes, on s'aperçoit que l'apprentissage du bilinguisme et la transmission du français, ça se fait sur de 0 à 18 ans. Il n'y a pas un moment où on peut souffler et se dire « c'est bon, il a tout ».
Ouais.
Il va y avoir des hauts et des bas par rapport à son environnement. Est-ce qu'on est amené à déménager ? Est-ce qu'on est amené à au sein d'un même pays ? Est-ce qu'on redéménage à l'étranger ? Est-ce qu'on n'a pas des brimades à l'école sur le fait qu'on parle une deuxième langue ? Voilà, il y a beaucoup à l'adolescence, la quête d'identité en disant « attends, c'est bon, arrête de me saouler avec le français, tes leçons, j'en ai marre, j'aimerais... J'aimerais faire plus de foot et pas passer une heure avec le prof de français. » Voilà, les enfants vont se rebeller. Les enfants vont pas toujours accueillir ça de manière, avec de la joie dans les yeux comme on aimerait qu'ils en aient. Donc, ouais. C'est pas facile. Y a plein d'enfants qui décident finalement d'abandonner, mais il y a plein d'histoires différentes. Ça peut revenir. Qui, à l'âge adulte, se rend compte que c'était un formidable trésor, ou des enfants qui ont eu un parent francophone finalement vont se marier avec quelqu'un d'autre de francophone alors qu'eux, ils s'étaient mis à l'anglais. Et finalement, ouais. Enfin, il y a autant de schémas possibles et alors qu'ils n'auraient pas envisagé ça.
Absolument.
donc ce qui est important vraiment pour la transmission, il y a pas mal de choses, on va dire, pratico-pratiques à faire. Donc, c'est veiller à ce que les enfants aient une exposition suffisante au français. Donc, il y a des chercheurs qui disent que pour apprendre une deuxième langue, il faut à minima 25 ou 28 heures de cette langue par semaine. Bon, c'est le fruit de leur recherche. Peut-être c'est un peu arbitraire. Peut-être que ça suffit à certains, peut-être pas à d'autres. Mais une chose est sûre, c'est que oui, il en faut quand même beaucoup.
Est-ce que ce serait 25 heures pour un enfant et un adulte ou on parle vraiment de l'enfant ici?
Non, c'est 25 heures d'exposition
pour
l'enfant. Okay, pour l'enfant. Donc, ces 25 heures d'exposition, ça peut être le dialogue avec son parent, sa nounou, ses frères et sœurs, ça peut être la télé, même si c'est passif. Voilà, c'est d'exposition à la langue, même si on n'est pas forcément dans une discussion. Ça peut être les moments où on lit l'histoire, etc. Donc, il y a le dialogue avec son parent, donc on a vu avec toutes les stratégies de langage à réfléchir et à maintenir ou à faire évoluer en fonction des besoins. Il va y avoir donc toute cette phase de dialogue. Si votre enfant refuse de vous parler en français, une fois de plus, moi je suis pour le non-conflit, dire voilà, moi, c'est important pour moi, j'ai cette langue, je souhaite te la transmettre. Si tu me réponds en anglais, c'est bien, je serais tellement heureuse si tu me répondais en français. Je ne te force pas, mais moi, sache que je te répondrai en français. Je reformulerai ce que tu viens de dire en français pour te donner aussi les mots que tu n'as pas voulu utiliser. Je ne vais pas donc te forcer à répéter, mais je vais reformuler une structure qui n'est pas correcte. Voilà, beaucoup de douceur, beaucoup de fermeté au sens ne pas lâcher. Donc, tout ce qui va être après, évidemment, quand l'enfant, alors évidemment, lire, ça fait partie de la transmission orale, hein, quand on lit au tout petit. On peut aussi utiliser, donc moi, mes enfants, ils sont fans des CD, ils s'écoutent des histoires en français, ils adorent ça, ça m'évite de les lire, c'est pratique. Hein. Et puis après, il y a l'apprentissage de la lecture et de l'écriture qui est vraiment une grande étape. C'est-à-dire que les enfants peuvent très bien parler français à l'oral, mais l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est pas facile, surtout de l'écriture. Parce que le français, je ne vous apprends rien, est une langue compliquée. Compliquée parce qu'elle a une grammaire, une conjugaison complexe et riche. Parce que d'un point de vue orthographique, ce n'est pas une langue phonétique. Que pour un même son, on va avoir 4 écritures différentes, qu'on double des consonnes de manière aléatoire, qu'il y a des lettres muettes à tire-larigot et que les enfants nous regardent avec des yeux.
Ouais.
Quoi faire ? Mais quel enfer, etc. Et donc, c'est une langue compliquée. Donc, d'où aussi l'intérêt de l'apprendre jeune, quand le cerveau a la plasticité qu'il faut pour apprendre toutes ces subtilités. C'est difficile, et surtout quand l'autre langue a une structure plus simple, comme l'anglais.
Oui,
c'est après, ça. Après, il y a des ponts, en fait. Ce que disent aussi les linguistes, c'est qu'il faut une langue, ce qu'on appelle dominante. À un moment donné, il va y avoir une langue qui va être un peu plus ou beaucoup plus forte que l'autre. Et c'est sur cette langue qu'on va bâtir les principes de la grammaire et de la conjugaison, même si l'anglais reste archi simple, hein, qu'il n'y a que deux terminaisons, si je puis dire, pour le verbe au présent, qu'il y a une forme passée voilà, et une forme future. Et qu'en français, il y en a beaucoup plus. Mais même si c'est simple, structurellement, voilà, on bâtit en fait finalement l'architecture donc d'une conjugaison et d'une grammaire, et les autres langues vont se pluguer là-dessus et peut-être faire plus de ramifications dans le cas du français parce que bah, c'est plus complexe. Oui, le verbe se conjugue, alors il n'y a pas que deux formes, il y en a 6. Il y a la notion de genre, voilà. Donc tout ça, ça va se mettre en place à partir de cette langue forte. Donc, il ne faut pas du tout refuser que la langue forte soit la langue du pays, la langue du papa. Le français va se bâtir là-dessus. Beaucoup de parents aussi me posent la question sur est-ce qu'il vaut mieux apprendre à lire dans les deux langues en même temps ou dans une langue puis dans l'autre. Alors, et à quel âge ? Là-dessus, une fois de plus, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de mode d'emploi unique. Beaucoup d'écoles bilingues apprennent à lire et donc à écrire dans les deux langues en même temps. D'autres le font en séquencé. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour le séquencé parce que justement, toujours dans la prolongation de cette langue forte, une fois qu'une première chose est mise en place, c'est plus facile d'en ajouter une autre. Voilà. Après, il y a des enfants, mais pour qui ça va poser aucun problème. Voilà. Et ça va dépendre des langues. Après, quand on a deux langues qui sont très, très proches, c'est vrai que les enfants vont avoir naturellement au début des problèmes de son parce que une même syllabe, par exemple, si on prend l'italien et l'espagnol qui sont très proches, ou le français et l'espagnol qui sont très proches, avec des syllabes qui sont écrites pareil mais qui n'ont pas la même prononciation, ils vont se mettre à avoir un accent français en espagnol et inversement. Bon, voilà. Du coup, c'est vrai que moi, personnellement, hein, c'est pour ça que je préfère le séquencer. Mais voilà. Et après, pour l'âge des enfants, bah, une fois de plus, aux États-Unis, enfin, dans le milieu anglophone, on apprend à lire à 5 ans et ça se passe très bien. Dans le milieu francophone, on apprend à lire à 6 ans et ça se passe très bien. Il est important de voir si votre enfant, il est mûr, d'y aller doucement avec une méthode qui sera syllabique pour le français parce que l'anglais est plus sur une méthode globale. Mais après, on fait aussi du global en français sur ce qu'on appelle les petits mots, les mots outils. Les mots avec, et, de, un, une. Voilà, tout ça, c'est aussi la méthode globale comme en anglais. Et après, évidemment, quand on a deux, trois syllabes, là, effectivement, on passe à la méthode syllabique. Voilà, c'est un peu comme ça qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est la mode d'apprendre la lecture. Hein. Tout peut changer d'ici 10 ans ou moins. Voilà, donc on peut être après le professeur de son enfant ou pas. Et là, beaucoup de parents, donc en général, commencent par faire le professeur de leur enfant. Bah parce que c'est le lien affectif, on a envie d'apprendre, on sait, on a les compétences linguistiques, donc on se dit, bah, je vais le faire, il n'y a pas de raison que c'est comme je lui ai appris à faire du vélo ou à nager, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas lui apprendre à lire ou à écrire. Voilà. Après, ce n'est pas toujours évident, car comme c'est complexe, eh ben, il peut y avoir donc de la pénibilité, des rapports un petit peu difficiles. Nous ne sommes pas tous pédagogues dans l'absolu, et peut-être encore moins après une journée de travail ou une journée difficile où il faut gérer déjà les devoirs de l'école locale. Après, il faudrait faire un petit peu de français, et puis il y a le grand qui fait ci, l'autre à aller chercher au foot. Bon, voilà, tout ça fait qu'on n'a pas forcément des contextes super optimisés pour arriver zen, détendu, on n'a pas forcément préparé un cours, voilà, on n'est pas, professeur, maîtresse de métier.
Non, c'est ça, mais j'aime quand tu parles du lien affectif aussi parce que ça m'amène à... Je me rappelle quand je suis allée pour une année dans une immersion en Italie, dans une famille d'accueil, ça m'amène à me rappeler justement qu'après 3 mois, on avait eu un genre de camp où on se réunissait les étrangers dans une ville en Italie. Puis là, j'ai réalisé que les autres avaient fait plus de chemin que moi dans l'apprentissage de l'italien. Ça m'avait dérangée, j'avais 17 ans, etc. Je suis revenue dans ma famille d'accueil après ce 3 jours-là. Et là, je me disais, mon focus est entièrement sur il faut que j'apprenne l'italien, je peux pas être en arrière des autres. Et puis, c'est à peu près à ce moment-là aussi que j'ai commencé à devoir combler un besoin de communication aussi avec ma famille d'accueil, à développer ce lien-là parce que j'allais passer l'année au complet avec eux. C'était plus seulement que la lune de miel, là, la vacance du début. Mm-hmm. Donc là, il fallait créer des liens plus solides, donc peut-être justement le lien affectif, et à travers ça, il y avait ce besoin-là de communiquer. J'avais demandé à ma sœur d'accueil de me parler à partir de maintenant seulement qu'en italien, parce qu'elle me parlait quand même en anglais et en français. Alors, à ce moment-là, elle m'avait dit, bien, Dominique, je pourrais pas te parler en français ou en italien parce que tu parles pas italien. Puis là, je lui ai dit, oui, mais si je suis pas dans un environnement où j'ai le choix, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'essayer de m'exprimer puis de trouver les mots que lorsque j'ai toujours l'outil le plus facile pour parler qui est quelqu'un à côté de moi qui parle ma langue. Donc, à ce moment-là, elle a coupé le français et l'anglais complètement et ça a pris quelques semaines et je parlais italien presque couramment, pas sans erreur, là, mais ça avait... ça s'était imprégné dans mon cerveau parce que j'avais fait un lien entre mes émotions, mon besoin de communication, le besoin affectif, etc., et l'apprentissage de l'italien.
Mais moi, tout ce que tu dis, je suis à 3000% d'accord avec toi. Il faut qu'on se confronte à un petit peu de difficultés. Tant qu'on aura un palliatif, on ne fera pas d'effort dans la langue qu'on souhaite parler. Et effectivement, le lien affectif, il est primordial. C'est pour ça que dans tout ce qu'on écrit, nous, dans notre blog Devenir bilingue, on met vraiment en avant le plaisir d'apprendre et le plaisir de parler français. Je veux dire, on ne pourra jamais arriver à transmettre notre langue si c'est source de conflits, si c'est difficile, si les enfants sont repris à chaque fois. Je veux dire, s'ils vivent ça comme « Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait suer encore avec son français ?»
Ouais, c'est ça.
Ça ne marchera pas. Et au-delà même de à quel point, je veux dire, l'affectif est important, j'ai eu comme ça quelques mails de papa, parce que quand le père doit transmettre la langue maternelle, c'est encore aussi un autre challenge.
D'accord.
Papa, donc papa francophone, installé aux États-Unis depuis des années, à l'aise comme un poisson dans l'eau en anglais, c'est devenu sa langue. Il s'est marié avec une Américaine, et donc lui souhaite transmettre le français, mais j'ai des papas qui m'ont écrit. Voilà, en fait, j'ai jamais parlé français à mon fils. Il a 5 ans. Je me dis que c'est trop bête. Est-ce que je peux faire marche arrière? Est-ce que, qui me disent, est-ce que vous auriez un professeur à me recommander? Moi, je leur dis, mais le premier professeur, c'est vous. Si votre enfant, il n'a pas un lien affectif avec cette langue, c'est comme si vous aviez décidé finalement de lui apprendre le chinois avec un professeur de chinois.
Voilà.
Il n'y a aucun rapport avec vous, avec qui vous êtes, avec votre culture, et puis vous n'êtes pas seul avec le français. Il y a peut-être des oncles et tantes pour l'enfant, il y a peut-être des grands-parents. Alors après, chacun a une histoire familiale différente. Hein. On est plus ou moins proche de sa famille, est-ce qu'on a une grande famille ou pas. Mais voilà. Mais c'est vrai que je dis, c'est un peu dommage parce que, mais en tout cas, prenez pas un professeur, ne confiez pas à quelqu'un d'autre ce qui doit être de l'ordre de l'affectif et de ce que vous devez découvrir de vous et apprendre de vous à votre enfant. Qui êtes-vous? Qui est ce francophone derrière son papa?
Absolument. Ah oui.
Là, les hommes, c'est beaucoup plus, c'est moins naturel pour tout un tas de choses qui, je pense, est sociétal, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la langue maternelle, parce que ça a été longtemps le devoir de la mère de tout transmettre.
Ouais.
Aujourd'hui, on vit dans une société où la mère n'a pas le monopole de la transmission, de l'éducation, et ce, à tous les points de vue.
Ouais.
La langue maternelle est aussi bien la langue paternelle et les hommes ont tout à fait un rôle à jouer s'ils souhaitent transmettre la langue à leur enfant. Alors évidemment, eux, ils prennent peut-être pas de congé à la naissance de leur enfant, ils peuvent travailler beaucoup, voyager, être moins là, mais ça n'empêche pas de passer du temps qualitatif. Ça vraiment, effectivement, je n'ai pas assez insisté, mais c'est le temps qualitatif. Lire des histoires, parler, eux aussi, pas décrocher, et que leur enfant ne comprenne pas ou réponde dans une autre langue. C'est OK, c'est pas grave, ça va venir. Il n'y a pas de pression.
Absolument, c'est ça. Il faut que ça demeure. C'est affectif, mais agréable aussi. Il ne faut pas que ça soit comme
Je comprends les parents. Après, les parents qui ont de fortes ambitions, de fortes attentes, parce que éventuellement ils pourraient rentrer au Québec, rentrer en France, rentrer à Alger, et se dire oui, mais alors là, peut-être qu'on rentrerait dans une école francophone. Là, leur niveau de français, il n'est pas terrible, surtout à l'écrit. Donc, on a aussi des attentes et des exigences vis-à-vis de ses enfants. Oui. Et là, sur notre blog, on propose, il y a plein de choses pour apprendre la lecture, l'écriture et vraiment le français à un niveau académique plus ou moins poussé en fonction de son contexte, de ses exigences. Il va y avoir des cours à distance avec des méthodes archi reconnues, plus innovantes et moins connues. Il va y avoir des cours avec un professeur. Alors, ça peut être un professeur en particulier chez soi, ça peut être un professeur particulier sur Skype. Beaucoup de familles sont réticentes, mais nous vivons avec des enfants qui font des Skype avec leurs grands-parents, etc.
Ouais.
Finalement, on se rend compte que c'est la même chose. Après, voilà. Après, il y a beaucoup de choses aussi online, vraiment géniales à découvrir. Bon, après, avec le online, chaque famille doit décider de sa politique, si je puis dire, par rapport aux écrans. Moi, je diabolise pas les écrans. Je pense qu'il faut en faire une consommation raisonnable en termes de volume horaire,
ouais.
Volume d'exposition et surtout qualitatif.
Mm-hmm.
C'est le contenu, pour moi, qui va vraiment primer. Donc voilà, donc ça c'est tous les outils que vous allez découvrir sur notre blog pour l'apprentissage. On a aussi un
guide, hein, le guide francophone à l'étranger qui est aussi rempli de ressources pour tout le monde.
Voilà, on met aussi beaucoup de ressources gratuites pour les parents qui font eux-mêmes l'apprentissage du français. Mm-hmm. Et j'en partage une par jour sur notre groupe Facebook qui s'appelle Francophone, transmettons notre langue et notre culture. Voilà, où je donne beaucoup de ressources, mais tout ce que je vais donner, c'est beaucoup de choses où il va y avoir de la manipulation, des conseils sur des livres, voilà. Toutes ces choses qui soient pratiques, mais ludiques. Je veux dire, sinon, tout le monde peut acheter un Becherel et puis faire les pages une à une. Hein. Ouais. Il n'y a pas besoin de moi pour faire ça. Donc,
on ne risque pas d'atteindre l'objectif sans le plaisir du reste, là.
Ben oui, parce que dans notre groupe, il y a beaucoup de parents qui échangent également à propos de leurs difficultés. Donc, la difficulté du parent, c'est faire en sorte que son enfant soit bien disposé, soit de bonne humeur et envie d'apprendre le français, qu'il ne fasse pas un blocage. Après, on a tous des problèmes pour, alors comment on va caser le français dans un emploi du temps qui est déjà bien chargé, parce qu'il y a l'école, parce qu'il y a déjà les devoirs de l'école, parce qu'il y a les activités extrascolaires, qu'il faut aussi garder du temps donc pour ses loisirs, pour inviter des copains, aller aux anniversaires, quand on est plus grand, à participer à des tournois sur différents sports ou d'autres activités. Donc, c'est pas toujours évident de caser tout ça, de se rendre soi-même disponible. Voilà. Donc, on a ici écrit un article avec une psychologue concernant les difficultés d'apprendre à ses propres enfants, notamment sur le français, où on met beaucoup d'enjeux parce qu'il y a beaucoup d'affectifs, c'est important pour nous, alors important parce qu'on est francophone, parce qu'on voudrait retourner à terme dans notre pays. Tout ça, en fait, plus on a d'attentes et d'exigences, et plus l'enfant le ressent comme une pression, et plus c'est source de conflit. Ouais, alors absolument. Maintenant, c'est facile à dire hein, de se détacher, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on a la chance quand même de vivre dans un monde où il y a énormément de choses. Et nous, la vocation de notre site, parce que nous, on a un site d'information gratuit, c'est de vous informer sur justement tout ce qu'il existe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des réflexes, alors ça, je parle notamment pour les franco-français, qui se disent « Ah bon, mon enfant, je vais lui faire faire le CNED », donc les cours par correspondance de l'éducation nationale. Mais le CNED, ce n'est pas forcément le mieux. Et le mieux pour vous, pour votre enfant, pour votre famille.
C'est ça, puis justement, j'ai relevé une phrase sur votre site que je me suis réécrite ailleurs parce que j'aime beaucoup. « Il n'y a pas qu'un parcours à conseiller pour devenir bilingue, mais des dizaines de solutions plus ou moins adaptées à chaque profil. »
Exactement. Et en fait, on ne se rend pas compte. Donc, il y a telle méthode qui va demander 10 heures de travail par jour. Il y en a une qui va demander 5 heures. Alors, les résultats ne seront pas forcément les mêmes. Mais nous, tout ce qu'on écrit, c'est vraiment, quelles questions en tant que parent, on doit se poser quelles sont nos ambitions, quel est le temps dont on dispose, quel est notre budget, hein, parce qu'évidemment, ce n'est pas neutre. Et en fonction de ça, qu'est-ce qu'il existe comme solution? Ça me paraît un peu mieux adapté pour moi, ou peut-être cette solution, pas du tout. Parce que pour nous, la chose la plus terrible, c'est quand vous dites, par exemple, je vais suivre les cours machin, et puis vous abandonnez. C'est ça le drame. C'est quand on n'a pas bien choisi, pas choisi la bonne solution parce qu'on en vient à abandonner, parce que c'était trop demandant, parce que c'était trop compliqué, parce que c'était pas assez rigolo, parce que les supports de cours étaient nuls ou pas drôles.
Et donc, il faut vraiment que l'apprentissage se fasse dans le plaisir. Lorraine, j'arrive à la fin de l'entrevue parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais je te poserai quelques petites questions en rafale comme je le fais avec toutes mes invitées avant de conclure.
Bien sûr.
J'aimerais savoir, plus c'est tu dois dire toute la vérité, rien que la vérité.
Je le jure.
Alors, c'est pas nécessairement directement en lien avec l'expatriation, tu vas voir, mais quelle est ta meilleure série Netflix à vie?
Gossip Girl, j'avoue.
D'accord. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Et si oui, quel est le dernier que tu as écouté?
Le dernier, c'était le tien. Et sinon, j'ai un podcast génial qui est fait par Catherine Alibert, que j'adore, sur toutes les questions de problématiques donc du maintien et de la transmission du français par une maman expatriée qui fait un travail génial et j'adore tous ses podcasts.
Génial. Est-ce que tu as le nom de son podcast?
Alors, évidemment, il est enregistré dans mes favoris.
On va chercher Catherine Alibert.
Voilà.
On va probablement le trouver comme ça. Est-ce que tu es plus du type livre ou audiobook et qu'est-ce que tu lis présentement?
Alors, je suis Kindle parce que ça prend beaucoup moins de place parce que je peux avoir mes livres en français à la seconde. Alors, ceci dit, mon dernier livre, c'était un livre papier que j'ai acheté en coup de cœur sur Amazon en France avant que mon mari y aille, qui s'appelle « Avec lui, c'est compliqué » parce que j'ai un deuxième petit garçon qui est TDAH. Et avec lui, c'est compliqué.
On va s'en rappeler, ça pourrait être utile. Si je te donnais un billet d'avion pour aller vivre un an dans la destination de ton choix, ce serait laquelle?
J'aimerais vraiment beaucoup aller en Californie, soit à San Diego, soit à Los Angeles.
Ah, je te comprends. Dernière question, est-ce que tu crois que l'on est expat ou qu'on le devient?
On le devient.
Oui. C'est assez certain. Ben, un gros merci, Lorraine. J'ai adoré t'entendre parler sur le sujet. J'aime aussi ton approche qui est très dans le plaisir et dans le jeu au niveau du maintien et de la transmission de la langue française à la maison. J'ai adoré ça. Un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était super instructif.
Ben, merci à toi, Dominique. Ça a été un plaisir.
C'était Lorraine Hourcade en direct de Mexico. C'est vraiment une question intéressante, n'est-ce pas? Moi, j'ai vraiment adoré son approche par le plaisir qui enlève un peu la pression qu'on peut mettre sur nos enfants sans vraiment le vouloir pour s'assurer qu'ils gardent leurs acquis. Je vous invite à découvrir leur site devenirbilingue.com sur lequel vous trouverez plein d'outils pour assurer la richesse linguistique de vos enfants. Restez avec nous pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci. Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié afin de passer le mot, que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer Texas Mama Blog ou Texas Mama Blog Expat. Merci!